L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Bonjour chers auditeurs de Foi FM, bon lundi de Pâques, je présume que vous êtes en congé aujourd'hui, mais en tout cas si vous ne l'êtes pas, joyeuse Pâques quand même, c'est une fête extraordinaire pour nous croyants, pour les chrétiens, nous nous rappelons la victoire de Christ sur le tombeau, la victoire de Christ sur la mort, et aujourd'hui je vais en parler avec le pasteur Pelletier. D'abord je me présente, je suis pasteur Pascal Deneau, je suis à l'église évangélique réformée baptiste de Saint-Jérôme, et donc ça me fait plaisir d'animer aujourd'hui cette émission en compagnie du pasteur Jacques Pelletier de l'Église réformée baptiste de la capitale à Québec. Bonjour pasteur Pelletier.
Bonjour pasteur Deneau.
Vous avez eu de belles célébrations pour le week-end de Pâques.
Extraordinaire. Christ est ressuscité. Mm. Hein? C'est extraordinaire.
Oui, et c'est malheureux que, comme la plupart des fêtes chrétienne, le sens dans la société se perd. Hein. Je me demande si la prochaine génération va avoir ne serait-ce qu'une infime idée de ce que signifie Pâques en dehors des lapins en chocolat. D'ailleurs, j'ai aucune idée d'où ça vient cette notion-là de lapin. Moi, je suis plutôt inculte à ce niveau-là, l'idée des lapins de Pâques. Mais peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous voulons plutôt parler de
Personnellement, je sais pas non plus d'où vient les lapins de Pâques, mais j'aime bien cependant.
Oui, non, c'est ça. On n'est pas contre le chocolat. Hein. Mais voilà. Alors donc, on va d'abord dans un premier temps, dans la première partie de l'émission, discuter du sens théologique de la résurrection. Hein, parce qu'avant de se demander si l'événement a eu lieu. On va se demander ce qui signifie. Et je pense que peut-être la meilleure façon de répondre à cette question, ce serait d'envisager qu'est-ce que ça signifierait si Christ n'était pas ressuscité. Et c'est facile, on peut plus facilement répondre à cette question parce que l'apôtre Paul lui-même la suppose au 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Il dit, et je vais citer les versets 14 à 19, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Fin de la citation. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce passage?
Je pense qu'il est assez clair, Pascal, ce passage, à savoir que c'est un article fondamental de la foi chrétienne que celui de la résurrection. Et c'est central à l'Évangile lui-même. D'ailleurs, dans le même chapitre dont vous venez de lire une portion, l'apôtre a écrit, je vous rappelle l'Évangile, frère, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est fondamental à la foi chrétienne. Effectivement, s'il n'y a pas de résurrection, nous n'avons aucune espérance.
Mm-hmm. Oui, ben, c'est ça. Si le Christ n'est pas ressuscité des morts, le christianisme s'écroule. Et je pense que si le Christ n'est pas ressuscité, ben on revient un petit peu à l'état dans lequel étaient les disciples après la mort de Jésus, après sa crucifixion, avant sa résurrection. Souvenez-vous combien ils étaient désespérés, complètement déboussolés, sans espoir. La vie venait de perdre son sens parce qu'ils avaient mis toute leur espérance, toute leur attente dans cet homme, en Jésus, et le voilà qu'il est mort. Et donc l'apôtre Paul nous dit, si la résurrection n'a pas eu lieu, notre prédication est vaine, tout ce qu'on a proclamé, tout ce qu'on a enseigné, tout le message chrétien, la foi chrétienne, elle est totalement vaine. L'édifice s'écroule. Alors, le christianisme n'est pas fondamentalement une religion qui s'intéresse à des principes moraux, à des valeurs familiales, mais au salut de l'homme. Et tout le reste découle de ce salut qui est central. Et l'événement central pour le salut de l'homme, bien, c'est la résurrection du Christ. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On dit donc, qu'est-ce que ça signifie si Christ n'est pas ressuscité? C'est qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de foi. Alors, quel est l'espoir? Quelle est l'espérance chrétienne? Quelle est la foi chrétienne?
Ben, c'est celle de la résurrection, justement, résurrection des corps. Je pense que tout le monde reconnaît, bien sûr, que la mort est une réalité universelle. Et je pense que personne n'a envie de mourir. Hein? C'est la mort, même si certains, bien sûr, essaient de nous faire passer le message que la mort est naturelle, qu'on peut l'apprivoiser, la mort ne peut pas s'apprivoiser. La mort, selon la Bible, est un ennemi. D'ailleurs, elle nous dit que c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Mais voilà, Christ, par sa résurrection, en fait, ça débute bien avant que ça, par son incarnation, par sa vie parfaite, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, a vaincu le problème. En fait, il est sorti victorieux du problème numéro un qui est celui de l'homme, à savoir son péché, et du châtiment, n'est-ce pas, qui vient sur le péché, à savoir en raison du péché sur l'homme, qui est la mort physique. Parce que la mort n'est pas naturelle. Et la Bible nous dit bien que l'homme n'a pas été créé pour mourir au commencement, mais que la mort est venue comme un châtiment en raison de notre péché. Donc, je parle toujours de la mort physique, bien sûr, mais que Christ, il a vaincu cette mort-là, justement, une fois pour toutes. C'est un message absolument extraordinaire, Pascal. C'est un message d'espoir absolument merveilleux que Christ soit ressuscité des morts.
Mm. C'est tout le salut de l'homme qui est affirmé, et non seulement affirmé, mais garanti par cette résurrection. Et la résurrection n'est pas centrale seulement au christianisme, elle est centrale au christianisme, c'est-à-dire pour tous ceux qui s'intéressent à la foi chrétienne, mais elle est l'événement central de l'histoire de l'humanité. Pour tous ceux qui ne s'intéressent pas au christianisme, ben, ils sont, passez-moi l'expression, dans le champ, parce que c'est l'événement qui donne le sens à l'existence, qui permet à ce que l'existence soit pas seulement quelque chose d'absurde, mais qui donne, qui révèle la vérité. On se demande c'est quoi la vérité, qu'est-ce que l'homme fait ici, d'où il vient. Bien, la réponse, nous l'avons lorsque nous regardons le Christ. Christ est la vérité, mais la résurrection vient attester qu'il est la vérité. Et c'est comme ça que les apôtres l'interprètent, hein, dans le livre des Actes. Après la résurrection, lorsque les apôtres prêchent, à la nation, au peuple juif, en particulier. Donc, ils leur attestent qu'ils ont été témoins de la résurrection, et ils présentent cet événement-là comme un témoignage divin. Hein? Dieu qui a glorifié son serviteur, qui a manifesté que Christ était véritablement celui qu'il disait être, et qu'il accomplit les Écritures. Parce que il faut qu'on comprenne, qu'on sache également que la résurrection était un événement qui était prévu, hein, dans les Écritures de l'Ancien Testament, et qui était le moyen par lequel Dieu allait accomplir ses promesses. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ, et c'est par le moyen de la résurrection qu'il a donné la vie éternelle et toutes les bénédictions de l'Alliance qui était prévue dans l'Ancien Testament.
Mais effectivement, Pascal, et non seulement par la résurrection, Dieu atteste tout ce qui était écrit déjà dans les écrits des prophètes hébreux, mais il atteste aussi que le Fils a accompli l'œuvre parfaite de rédemption pour une grande multitude. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 4 verset 25 que le Seigneur Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il a été ressuscité pour notre justification. Ça veut dire que il a été livré pour nos offenses. C'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix. Hein, il s'est lui-même volontairement donné comme un sacrifice, hein, pour les péchés d'une multitude d'hommes et de femmes. Et la preuve que ce sacrifice-là a été accepté par Dieu lui-même, c'est que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Donc, cette résurrection atteste que Jésus, premièrement, c'est un homme exactement comme nous, mais en même temps, c'est plus qu'un homme. C'est le Fils de Dieu. C'est vraiment celui que Dieu a envoyé, hein, qui est né de la Vierge Marie, mais aussi qu'il a accompli une œuvre unique que personne d'autre pouvait accomplir, qui est celle de notre rédemption, de la rédemption d'un grand nombre d'hommes et de femmes, et que ce sacrifice qu'il a accompli, qui est unique en lui-même, qui est d'une perfection extraordinaire, eh bien, il a été accepté par Dieu, une fois pour toutes, et la preuve de cela, c'est que Dieu ne l'a pas laissé dans le tombeau. C'est impossible d'ailleurs qu'il demeure dans le tombeau, parce que Jésus, bien qu'il soit exactement comme nous en tant qu'homme, hormis le péché, est aussi Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et donc, c'est la raison pour laquelle il devait nécessairement aussi sortir du tombeau. Mais cette résurrection atteste qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui croient en lui.
Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, verset 24. C'est la prédication apostolique. Le Christ, s'il avait été un pécheur, s'il avait mérité une condamnation, serait demeuré mort comme tous ceux qui sont morts avant lui. Mais parce qu'il est le juste, la résurrection atteste donc sa justice. C'est un peu une déclaration, c'est un verdict divin qui tombe où Dieu le justifie, hein, il le déclare juste. Mais comme vous l'avez rappelé, il est ressuscité pour notre justification. Donc c'est pas seulement lui qui est déclaré juste, mais c'est tous ceux qui croient en lui qui sont ressuscités avec lui en esprit et en vérité.
Effectivement. Et l'apôtre Paul décrit aussi, et c'est toujours dans 1 Corinthiens 15, que ce Jésus qui est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il parle ici, bien sûr, de façon particulière de la mort physique. C'est-à-dire que tous ceux qui croient dans le Christ ont cette assurance maintenant, non seulement que le Christ les sauve leur âme, hein, les justifie devant Dieu, mais c'est plus que cela encore. La résurrection d'entre les morts, parce qu'on parle de la résurrection corporelle, hein, de ces Jésus, a été mis dans le tombeau, son corps a été mis dans le tombeau, mais il est ressorti vivant du tombeau. Eh bien, il nous est dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Que de même que la mort est venue par un homme, par Adam, eh bien, la vie est venue aussi par un autre homme, c'est-à-dire par Jésus, la résurrection. Et de même que Jésus est ressuscité d'entre les morts, et nous le croyons parce que la Bible l'affirme, n'est-ce pas? Parce que tout cela est annoncé, hein, comme l'avait si bien dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, attesté dans le Nouveau Testament. Alors, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, tous ceux qui croient en lui réellement, tous ceux qui lui sont associés par la foi, ont cette assurance qu'un jour aussi, ils vont sortir du tombeau.
Quelle espérance glorieuse. Et Paul dit, je l'ai cité tantôt, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Autrement dit, si notre espérance, si notre foi en Christ ne nous amène pas à croire à tout ce qui va au-delà de la mort et qui nous est attesté par sa résurrection, mais qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste plus grand-chose et puis nous sommes totalement malheureux, mais on peut renverser ce qu'il dit, parce que de toute façon, immédiatement, lui-même, après, il le fait, parce qu'il dit « Mais Christ est ressuscité des morts, hein, après avoir fini de supposer qu'est-ce qui en serait si c'était pas le cas. » Alors, si Christ, parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous sommes les plus heureux de tous les hommes, en raison de l'espérance que sa résurrection nous donne, de notre propre résurrection. Imaginez, chers auditeurs, la bénédiction qui est la nôtre en croyant en Christ, la vie éternelle, une existence qui va être semblable à celle du Christ, où il n'y aura plus de péché, plus en nous, mais plus dans le monde non plus, où il n'y aura plus la mort qui divise, qui fait souffrir, où le deuil, la maladie, la corruption, ça sera terminé. C'est une humanité restaurée, une nouvelle humanité qui a été créée en Jésus-Christ, la première étant perdue, Dieu l'a mise à mort à la croix, et il fait ressortir une nouvelle humanité, et Christ est le premier-né de cette humanité-là, et nous sommes tous appelés à y participer en croyant en lui dès aujourd'hui par la foi.
Et je pense que j'aimerais ajouter, si vous me permettez, Pascal aussi, que il nous est dit aussi, hein, dans le livre des Actes, que ce Jésus qui a été ressuscité a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Acte 10, verset 42. Et donc, cette résurrection, hein, parce que certains pourraient, qui nous écoutent, certaines personnes qui nous écoutent pourraient dire, bon, ça c'est pour ceux qui croient, les chrétiens, là, ceux qui acceptent le témoignage de l'Écriture. Mais l'Écriture nous dit que ce Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Il va revenir un jour, hein, et il va juger tous les hommes. C'est Dieu l'a établi. Il l'a établi comme juge des vivants et des morts. Tout le monde va devoir se présenter devant celui que Dieu établit de cette manière. Par contre, il est devenu, pour tous ceux qui croient en lui, le sauveur. Hein, un grand prêtre, même celui qui s'est tenu entre nous et Dieu, qui a offert le grand sacrifice pour faire l'expiation de nos péchés. Et dans Romains 8, 34, l'apôtre Paul a écrit « Qui condamnera ceux qui croient en lui ?» Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il prie pour nous, en faveur de nous. Donc, il est juge des vivants et des morts, et le jour vient où il va demander des comptes à chaque individu qui a vécu sur cette planète, parce que Dieu l'a établi pour cela, mais il est là aussi, il a été établi aussi pour sauver tous ceux qui s'approchent de lui par la foi, parce qu'il est vivant. C'est un sauveur qui est vivant, il est ressuscité, et il intercède pour tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Et il est prêt à accorder, bien sûr, ce salut à tous ceux qui le lui demandent. Tout ce qu'il nous faut, c'est venir à lui et croire en lui.
Écoutez, chers auditeurs, on va s'arrêter pour une petite pause musicale, tant que vous réfléchissiez à tout ça, que vous méditiez sur ce qu'on vient d'échanger. Et au retour, on va discuter du caractère historique de cette résurrection. Parce qu'on croit que tout ce qu'on vient de dire, tout ce sens théologique, cette portée glorieuse de ce message, eh bien, il doit absolument s'enraciner dans un événement historique qui doit avoir eu lieu, qui doit être vrai. Et donc, on va s'intéresser à cette question au retour.